Sébastien Lombardo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes PDG de Valtech. On va parler avec vous de votre année 2014 et puis des perspectives. Vous êtes, vous, une agence indépendante dans le marketing digital. On va y revenir ensemble. Mais l'année 2014, pour vous, c'est une année de croissance et c'est une année satisfaisante en termes d'activité?
Ça a été effectivement une année extrêmement positive en termes des croissances, en termes d'accélération de la profitabilité. Et qui présume, qui augure en fait une année 2015 qu'on espère aussi bonne, si n'est pas meilleure.
Pour vous, qu'est-ce qui est important aujourd'hui dans ce domaine on entend beaucoup parler du digital, du numérique, de marketing digital. Aujourd'hui, le cœur de métier de Valtech, pour celui qui découvrirait aujourd'hui Valtech, on reviendra à l'ancien Valtech, le Valtech d'aujourd'hui.
Le Valtech aujourd'hui est au cœur de l'enjeu de la transformation numérique des grands groupes mondiaux, des fortunes 1000, qui est porté essentiellement par les directions générales et les directions marketing, qui drive quand même le business de ces groupes, et non pas l'informatique en fait, qui est plutôt relégué à une fonction de support, et au sein de ces problématiques clients, qui est globalement, pour la résumer, la problématique, elle se résume à en fait, de dire comment on intègre les disruptions et les changements qui sont amenés par les évolutions et les innovations digitales dans notre business, dans notre activité, dans nos organisations. Sachant qu'il y a un élément fondamental qui a changé, c'est la façon et les profils du consommateur. Les canaux de consommation, les canaux de communication, la façon d'interagir avec un consommateur final. Et donc, il faut pouvoir s'adapter à ces nouveaux comportements, à ces nouveaux canaux de communication et de distribution, et des commerces. Et pour cela, aujourd'hui, il n'y avait pas vraiment d'acteurs, c'était notre vision il y a 5 ans, qui est de plus en plus pertinente. Il fallait avoir des acteurs intégrés qui étaient capables de comprendre les problématiques de l'entreprise au niveau de leur stratégie business, qui était capable de construire des plateformes, essentiellement des plateformes d'e-commerce, des plateformes de contenu et de marketing, qui allaient permettre en fait aussi avec des organisations qu'on essaye de rendre de plus en plus agiles, c'est un facteur déterminant et différenciant de Valtech, pour aider nos clients à intégrer ces changements, à les implémenter et à adapter les organisations pour pouvoir appréhender l'enjeu du digital dans leur activité.
Le Valtech des années 2000, pour les boursiers qui nous regardent, ils se rappellent du Valtech, de ces agences web, web agency on disait à l'époque. Aujourd'hui, la différence c'est quoi? C'est qu'il faut de la technologie, il ne suffit pas de faire un site, on le sait désormais, un beau site, il faut de la technologie derrière cette stratégie.
Plus que de technologie, on va parler d'expérience. Donc, il faut construire, imaginer, concevoir, créer les plateformes technologiques qui permettent d'offrir des expériences, des consommations, des expériences d'interaction avec les consommateurs et qui intègrent ces technologies, les différents canaux d'échange, l'omnicanal, web, mobile, physique, pour pouvoir effectivement offrir un service ou un produit et au-delà de ça, offrir une expérience, encore une fois, qui répond aux attentes d'un consommateur qui a vraiment évolué. Les consommateurs du 21e siècle n'est pas les mêmes que celui d'il y a 20 ou 30 ans.
Donc il est sur différents lieux, il est sur mobile, il est sur les réseaux sociaux, il est à différents endroits. Il faut être capable de le capter là où il est.
Il faut capable de le capter là où il est, il faut être capable de lui fournir un contenu, un message, un produit, un service là où il est, sachant qu'en plus de ça, il a un profil différent en fonction de l'endroit où il se trouve, du canal qu'il utilise pour être communiqué, pour consommer. Donc, c'est le fait de pouvoir organiser des sociétés, donc nos clients doivent pouvoir s'organiser et avoir l'infrastructure qui va avec, les équipes qui vont avec, la gouvernance qui va avec pour pouvoir implémenter une stratégie qui peut toucher ses consommateurs, quel que soit l'endroit où il se trouve, quel que soit l'endroit, le canal avec lequel il consomme.
Quel est le modèle, justement, le business model derrière tout ça? Parce que ça, pour le coup, on a vu des agences se transformer, des agences de communication devenir digitales, marketing digital, faire un certain nombre d'acquisitions, ajouter des briques, comme on dit. Mais parfois, il y a des questions de rentabilité, de business model. Le business model, il est lié à quoi? Il est lié à la vente de produits, à l'abonnement. Quel est aujourd'hui le business model d'une agence telle que la vôtre?
Alors, les agences, on a différents acteurs. Les agences étaient assez précurseurs en fait dans l'anticipation de cette mouvance digitale. Mais ils ont abordé les sujets digitales essentiellement et d'abord sur l'angle de du média digital. Donc, ils ont commencé à digitaliser les offres par rapport à leurs médias, à l'achat média et à la stratégie média vis-à-vis de leurs clients. Et ensuite, ils sont de plus en plus confrontés aux problématiques d'intégration entre le média digital et maintenant offline avec l'e-commerce, puis des plateformes, des données, des CRM, de temps réel. Vers quoi on va? C'est vers le temps réel qu'on va au niveau du contenu et du CRM. Donc, les business models, c'est un business model toujours d'intermédiation des services, donc lié à des projets qui sont livrés à un moment donné pour une agence, une nouvelle agence. Donc, qu'on résume dans ces expériences qu'on conçoit. Donc, il y a une partie des stratégies qui est facturée comme une mission des stratégies. Il y a une partie des développements et d'intégration des plateformes, des commerces et des contenus. Et donc, ça, c'est plus un travail qui se rapproche de ce qui faisait historiquement les agences, les services informatiques. Les agences web. Et puis en troisième lieu, il y a une activité d'activation de ces plateformes qui est plutôt la partie qui font les agences de campagne média, de contenu de CRM. Donc essentiellement, c'est les prestations de services, puis ce sont aussi des modèles qui sont liés à la volumétrie des données qui sont utilisées par les clients et qui varient en fonction effectivement des augmentations de volume sur ces données.
Pour vous, justement, les perspectives, elles se présentent comment aujourd'hui? On a cette base, on a ces résultats de 2014. Vous avez un plan? Alors, ça, c'est du marketing, vous l'avez appelé Rocket 2015-2017.
Voilà, c'est un clin d'œil par rapport au fait qu'on, au point de départ, on essaie de construire une société, de l'équiper, donner des outils, une organisation et les équipes, et des profils et des talents. Pour ensuite, c'est le travail de transformation qu'on a fait depuis qu'on a racheté la société, des retournements d'abord pour retrouver une dynamique de croissance. La société était dans une dynamique de décroissance dans les années, à la fin des années 2010, quand on a racheté les groupes. Donc on a remis une dynamique en place de croissance. Ensuite, on a transformé les offres, les profils des équipes, également nos interlocuteurs chez les clients pour pouvoir travailler de plus en plus avec des directions marketing en général pour les accompagner dans cette transformation numérique. Et on arrive effectivement fin 2014 où cette transformation est achevée et maintenant on rentre dans une phase d'accélération qui va se dérouler pendant les trois prochaines années. Donc une requête effectivement, il a plusieurs étages et on est en dernier étage en train de les compléter. Donc où on va essentiellement aborder trois sujets, c'est continuer l'internationalisation du groupe parce que les projets digitaux qui augmentent en taille et qui augmentent en importance stratégique chez nos clients, par définition, ce sont des projets mondiaux. Les consommateurs, il est mondial aujourd'hui. Les offres des produits et des marques, que ce soit dans les luxe, l'automobile, la pharmacie ou les retail, ce sont des offres mondiales. Donc il faut continuer à nous internationaliser, même si le groupe est un groupe vu de la France, où 70% à peu près du chiffre d'affaires est fait à l'international. Il faut continuer. Deuxièmement, on doit continuer à grandir et à compléter nos offres par des acquisitions. C'est un élément fondamental du plan. Et le troisième élément, c'est la continuité des nouvelles offres, puisque la technologie continue à évoluer de façon de plus en plus rapide. Et pour le coup, on intègre ces offres, ces nouvelles technologies qu'on commence à implémenter chez nos différents clients en fonction de leurs besoins.
Le mot de la fin, apparemment, vous avez dit que le siège social, il pouvait partir hors de France. Qu'est-ce qui vous gêne finalement aujourd'hui? C'est une question de rentabilité, question d'activité, puisque ça étonne toujours, ou ça choque même en ce moment, de dire, tiens, finalement, on pourrait aller mettre le siège social ailleurs.
Alors, c'est une question pertinente, mais provocante en même temps. Non, il y a un sujet. D'abord, il y a deux sujets dans la question. Le premier, c'est que Valtech est devenue une société par définition européenne. C'est globalement, l'Europe du Nord représente aujourd'hui plus de 50%, si ce n'est pas à peu près 58% du chiffre d'affaires du groupe. Donc, en dehors de la France déjà, les États-Unis vont devenir le premier pays dans les trois années qui viennent. Donc, on a déjà une société qui n'est pas franco-française, premièrement. Le fait de devenir une société européenne, c'était le premier objet de la transformation, reflète en fait le profil de notre société. Donc, nos camarades allemands, anglais, suédois, danois sont contents de retrouver en fait une société qui est devenue européenne et pas que française dans ce sens-là. Il n'y a rien de mal par rapport à ça vis-à-vis de la France. Ce n'est pas un problème de rentabilité spécifique à la France.
Oui, de fiscalité.
Ni de fiscalité d'ailleurs, puisque Valtech, c'était un mal pour un bien, mais comme dans les années qui nous précédaient, avait accumulé des pertes. Aujourd'hui, on a un déficit reportable qui nous donne encore un cadre de fiscalité plutôt favorable. Non, les vrais sujets qui concernent la France, c'est malheureusement un sujet qui n'a rien à voir avec notre activité, qui n'a rien à voir avec nos équipes ou la rentabilité, mais qui a à voir avec un contexte de marché, presque politique, même si on ne fait pas de politique, c'est qu'il y a un manque de visibilité sur les politiques sociales, fiscales, mais tout ce qui est réglementaire, globalement, le rôle de l'État en fait, dans l'économie, premièrement. Et deuxièmement, c'est un sujet qui concerne aussi la façon dont... moi, je considère que les entrepreneurs, c'est un peu les héros du temps moderne, des gens qui prennent des risques, qui essaient de contribuer socialement. On a un rôle social, surtout dans une entreprise comme Valtech, où le seul actif, ce sont les équipes. Et on ne peut pas dire que la France est en train de devenir un pays business-friendly. Et les poids de l'administration, des réglementations, la complexité, en fait, est telle que si on pouvait s'alléger de ça pour aucune autre raison, mais simplement, on pourrait aller encore plus vite. Et c'est le souhait de notre projet et de nos actionnaires et du conseil d'administration aujourd'hui qui va devoir décider dans quelques semaines si on transfère ou pas, effectivement, les sièges de la société.
Eh bien, on transmettra à Emmanuel Macron, bien sûr. Merci, Sébastien Lombardo, d'avoir été avec nous.
C'était un plaisir. Merci à vous.